Welcome.
Bienvenidos.
Konnichiwa.
Saluete.
Bon dia. Vous êtes sur Radio U et vous écoutez Radio Calliope, le rendez-vous mensuel sur les langues et en langue de Radio U et de l'UBO. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Centre des langues Calliope à la Faculté des Lettres Victor Segalin. Bonjour Simon.
Bonjour Laura. Pour ce cinquième et dernier numéro de Radio Calliope, nous mettons à l'honneur la diversité des langues. Aujourd'hui, on change un peu de format en vous proposant une émission multilingue. On a rencontré des gens de tous les horizons pour nous parler des langues et des échanges culturels.
Pour commencer, les étudiants d'espagnol ont rencontré Pedro Sepúlveda Cruzcoque, un artiste chilien avec un projet artistique multiculturel à découvrir. Ensuite, nous recevrons sur le plateau trois invités pour parler sur l'expérience de se confronter à une culture et à une langue étrangère.
Les étudiants d'italien nous ont préparé un micro-trottoir sur les stéréotypes de la France et de l'Italie. Pour rompre avec les stéréotypes, rien de mieux qu'un petit séjour à l'étranger. Pour nous parler des différents dispositifs mis en place à l'UBO pour faciliter l'échange entre langue et culture, nous recevons Christophe Guilherme.
Et comme d'habitude dans l'émission, nous partons au voyage culinaire pour la recette du mois. Cette fois-ci, Elena nous amène en Italie. N'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour être au courant de tous les événements sur les langues à Brest et aux alentours dans notre section l'actualité des langues. Vous écoutez Radio Calliope sur le 101.1 en direct du Centre des langues.
En mars dernier, le festival de danse Dansfabrique a eu lieu au Quartz. Cette année, Dansfabrique a décidé d'aller à l'autre bout du monde, au Chili, pour nous montrer le travail d'artistes, danseurs et chorégraphes chiliens. Laura et ses étudiants d'espagnol ont rencontré Pedro Sepúlveda, qui nous parle d'un projet international bien particulier, le projet Question.
Hicimos nuestro primer proyecto que se llama Proyecto Pregunta, que es este dispositivo de participación ciudadana, en el cual trabajamos con estas letras y preguntamos, por ejemplo, ¿qué le preguntarías a tu ciudad? Y nos instalamos en la vía pública con esta estructura, una mesa y papeles, formularios. Y la gente contesta en estos papeles, contesta sus distintas preguntas. Y después nosotros esas preguntas las vamos poniendo en grande.
Nous avons fait notre premier projet qui s'appelle le projet Question. C'est un dispositif de participation citoyenne dans lequel on travaille avec des lettres grand format. Nous demandons par exemple... Qu'est-ce que tu demanderais à ta ville ? Nous sommes installés sur la voie publique avec une structure, une table, des feuilles et formulaires pour que les gens répondent à la question par une question. Ensuite, nous affichons ces questions en les écrivant avec les lettres grand format.
Por ejemplo, acá en Valparaíso, ¿qué le preguntarías a tu padre y a tu madre? Papá, ¿eres Darth Vader? Mamá, ¿aún después de usar la visa, eres comunista? ¿Cuándo me van a dar la visa?
Ici, par exemple, à Valparaiso, qu'est-ce que tu demanderais à ton père, à ta mère ? Papa, tu es Darth Vader. Mama, même après avoir utilisé ton visa, es-tu communiste ? Quand est-ce que j'aurai le visa ?
Lo que nos interesa es el conocimiento, más que el entretenimiento, digamos. Como que hay una noción de que el arte desde el fondo es como un varieté entretenido de ir a ver teatro, de ir a ver cine, de ir a ver exposiciones, pasarlo bien. Pero nuestra pregunta tenía que ver cómo activamente podemos generar conocimiento, podemos generar discusión política, podemos generar espacios de diálogo ciudadano y espacios de activismo concreto.
Ce qui nous intéresse, c'est la connaissance plus que le divertissement. Il y a une notion où l'art est une espèce de variété amusante, où l'on va voir du théâtre, du cinéma, des expos, s'amuser. Mais pour nous, il s'agit vraiment de comment générer la connaissance, de la discussion politique, des lieux de dialogue citoyen et des espaces d'activisme concret.
Por ejemplo, acá este es el proyecto en Dresden. Acá dicen alemanes, si tú fueras un refugiado, y le estamos preguntando qué le preguntarías a los alemanes, digamos. Entonces hacemos también algo muy concreto por, en el fondo, visibilizar también la micropolítica y el lugar donde cada uno quiere decir, ¿por qué hay tanto racismo? Por ejemplo, Palma de Mallorca.
Par exemple, à Dresde, en Allemagne, on a posé la question « Qu'est-ce que tu demanderais aux Allemands ?» Une réponse a été « Et si tu étais un réfugié ?» On a fait un effort pour donner de la visibilité à la micropolitique et donner une voix à chacun, peu importe son origine. Par exemple, à Palma de Mallorca, pourquoi il y a autant de racisme ?
Bueno, y este proyecto es eterno. Hemos hecho más de 15.000 preguntas. Hemos estado en más de 60 lugares. Este año vamos a estar en Ginebra, en Essen, en Zurich, en Lausanne, en Montevideo. Es un proyecto que está viajando y que se está moviendo, y la idea y lo que nosotros estamos todo el rato es como animando a la gente también a buscar sus maneras de cómo activar sus comunidades y ocupar herramientas distintas para poder discutir.
On a compilé à ce jour plus de 15.000 questions et le projet se poursuit. Nous avons visité plus de 60 villes. Cette année, nous allons à Genève, Essen, Zurich, Lausanne, Montevideo. C'est un projet qui voyage et qui bouge, et nous incitons les gens à chercher les manières d'activer leur communauté pour trouver toujours les nouveaux outils pour débattre.
Il y a une quarta parte, une tercera parte del proyecto con este grupo de estudiantes, artistas, activistas, etcétera, que es los fanzines de artistas. Estamos investigando cuatro de las obras que están sucediendo en Dance Fabric. Y estamos haciendo fanzines, cines de sobre la obra. Esto es sobre el papagayo de Humboldt. Les voy a contar un poco esta obra porque es hermosa.
Un autre volet de ce projet sont les fanzines d'artistes qu'on fait ces jours-ci dans le cadre du festival Danse Fabrique, avec des étudiants, artistes, activistes, avec qui nous étudions quatre œuvres au programme pour éditer ensuite un fanzine. Dans une de nos interventions antérieures, nous avons fait un fanzine sur une œuvre qui s'appelle Le perroquet de Humboldt.
Esta obra trata, el papagayo de Humboldt cuenta la historia de que cuando Alexander von Humboldt vino a América Latina, encontró a un papagayo que hablaba un idioma de un pueblo originario. Y entonces investigando este papagayo que hablaba este se lo robó y que hablaba esa lengua, y va donde los indios tupi y les pregunta si este papagayo habla su lengua. Y los indios tupis le dicen que no habla su lengua, que habla la lengua de un pueblo de al lado que fue totalmente extinguido, matado por los portugueses, totalmente. Entonces Humboldt se da cuenta de que las lenguas también están en extinción. Y es la primera persona que acuña la idea de la extinción de la lengua así como científicamente.
Cette œuvre merveilleuse raconte l'histoire d'Alexandre von Humboldt, qui est arrivé en Amérique latine et a trouvé un perroquet qui parlait la langue d'un peuple traditionnel. Humboldt a volé ce perroquet et commence une recherche qui l'emmène chez les Indiens Tupi. Il leur demande si le perroquet parle leur langue. Les Indiens lui disent qu'il ne s'agit pas de leur langue, mais d'une langue d'un peuple voisin, tué par les Portugais. Humboldt se rend compte que les langues sont aussi en danger d'extinction. C'est le premier à établir scientifiquement la notion de l'extinction des langues.
Alexandre von Humboldt avait raison. Des 7000 langues environ existantes aujourd'hui dans le monde, le 95% risque de disparaître d'ici 2100. Dans nos pays occidentaux, le choix des langues est très restreint. La population parle l'une des 9 langues géantes, comme l'anglais, l'espagnol, le français, etc. Et nous apprenons très peu de langues étrangères. Aux États-Unis, la plupart de la population est monolingue, et en Europe, nous parlons en moyenne 2 langues. En Nouvelle-Guinée, où la diversité linguistique est la plus grande du monde, avec plus de 1000 langues sur une superficie à peine plus grande que celle de la France, les habitants parlent un minimum de 5 langues, et certains néo-guinéens parlent jusqu'à 15, sans jamais avoir suivi un cours de langue. On sait bien qu'une langue n'est pas seulement un moyen pour communiquer, mais c'est aussi un véhicule de la culture et surtout d'une vision du monde. La disparition d'une langue entraîne forcément la disparition d'une culture. Apprendre une langue nous donne la clé pour se rapprocher d'une culture et de ses habitants, pour ouvrir notre esprit et lutter contre les idées reçues, les stéréotypes, les clichés et les préjugés. Grâce à l'apprentissage des langues, nous pouvons construire un monde plus tolérant et riche en diversité. Et justement, c'est le moment de partager autour de cette diversité avec nos prochains invités. Nous sommes toujours en direct de la Faculté des Lettres pour la dernière émission de Radio Calliope sur Radio U.
Pour nous parler de l'expérience de se confronter à une culture et une langue étrangère, nous avons sur le plateau Connor, Norama et Julia.
Connor Doran est irlandais et travaille comme lecteur d'anglais à l'UBO. Bonjour Connor.
Bonjour.
Norama Anifianti est indonésienne. Elle fait partie de l'équipe de bénévoles de Radio Calliope et étudie la biologie. Bonjour Norama.
Oui, bonjour.
Et Julia Delattre est française, étudiante en langue étrangère appliquée, et elle part en échange à Bologne, en Italie, l'année prochaine. Bonjour Julia.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vivre et à étudier à l'étranger ? Par exemple, Julia, tu pars en Erasmus l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'a fait décider de partir ?
Alors, en fait, déjà, grâce au travail de mes parents, j'ai pu voyager déjà beaucoup quand j'étais plus petite. D'ailleurs, je suis née en Afrique du Sud. Donc, en fait, j'ai tout de suite été confrontée à une autre culture que ma culture d'origine, qui est française. Et en plus, donc après, j'ai voyagé dans d'autres pays pour découvrir d'autres cultures qui étaient tout aussi intéressantes. Et donc, en fait, l'Erasmus, pour moi, c'était vraiment l'aboutissement de ma licence LUA, qui était très important pour moi, et l'Italie, qui est un pays qui m'attire beaucoup au niveau de sa culture, du cinéma, du théâtre, principalement, et juste au niveau de la langue, que je trouve passionnante.
Merci, Julia. Et Nourama, tu viens d'Indonésie. Comment ça se fait que tu es arrivée en France? Qu'est-ce qui t'a fait décider de partir si loin?
Oui, parce que premièrement, j'aime bien la culture française. Je trouve que la langue française est vraiment très proche au niveau des scientifiques. Donc, je pense qu'à partir d'apprendre la langue française, on peut élargir avec d'autres langues. Oui.
Et merci, Nourama. Et pour toi, Connor?
En fait, j'ai étudié le français à l'université en Irlande, à Dublin. Et quand j'avais 20 ans, je crois, je me suis fait proposer l'occasion d'étudier en France. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et je suis venu, c'était bien. J'étais en échange à Lyon pendant 9 mois. Et puis, je suis resté pendant 3 mois pendant l'été pour travailler. Je suis revenu l'été après, mais j'ai fini mes études en Irlande. Et je suis là depuis que j'ai fini mes études en Irlande. Et pour moi, c'était pour apprendre le français, en fait. Parce que pour moi, la meilleure façon d'apprendre la langue, c'est vivre dans la culture avec des gens, avec des gens qui parlent la langue et tout ça. C'est la meilleure façon de l'apprendre, donc. C'est pour ça que j'ai décidé de venir en France.
Et justement, à ce propos, est-ce que vous pensez qu'apprendre une langue peut aider à mieux saisir une culture d'une langue étrangère? Par exemple, Connor?
Oui, parce que il y a des trucs dans les langues, dans notre langue qui témoignent de culture des pays aussi. Par exemple, il y a des tourneurs de phrases où, par exemple, en Irlande, il y en a un qui est, ça c'est What's the crack? C'est une salutation, ça veut dire que c'est comme salut, ça va, ça gaz, quoi de neuf, c'est quelque chose comme ça. Ça c'est en fait un mélange d'anglais et de gaélique. Le mot crack, c'est gaélique, et ça veut dire amusement en français. Et pour moi, ça démontre qu'en Irlande, on est plutôt positif, tout ça, on aime s'amuser, tout ça. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut apprendre les cultures par les langues.
Et pour toi, Julia, tu pars du coup en Italie. Est-ce que tu te prépares à ton voyage en étudiant la langue pour mieux saisir la culture?
Oui, alors en fait, je fais une licence en ce moment de LEA anglais, chinois et italien. L'italien, je le travaille depuis la quatrième, sachant que j'ai 20 ans et que je suis en troisième année d'études supérieures. Et du coup, oui, j'étudie l'italien depuis très longtemps. J'ai des amis qui vivent en Italie. J'ai déjà été pendant un long séjour en Italie aussi. Donc oui, et... Puis voilà.
Merci Julia. Et justement, quand on connaît la langue, donc c'est plus facile de s'adapter et de comprendre un peu la culture où on arrive. Est-ce que Nourama et Connor, quand vous êtes arrivés en France, il y a des choses qui vous ont frappé par rapport aux différences culturelles entre votre pays et la France?
Oui, pour moi personnellement, c'est par rapport le climat et le temps. Parce qu'ici, normalement, le temps est plus long, et par rapport au niveau de climat, là-bas il est beaucoup plus chaud. Je trouve que ici, surtout en été, la première fois que je suis venue en France, j'ai mis un manteau. C'est en été, mais je trouve que c'était très très froid. Donc, oui.
Merci Nourama. Et Connor, est-ce que tu as des exemples, par exemple, d'habitudes ou des gestes quotidiens qui peuvent changer entre la France et l'Irlande?
Oui, j'en ai une et j'en ai quelques, en fait. Et pour moi, la meilleure façon de commencer, c'est au bar, en fait, plutôt à Bretagne. Bon. Parce que pour moi, en France, on aime boire, mais on cache le fait avec les apéros.
Avec les
apéros. Apéro.
Ah oui, avec les apéros.
On dit en français, c'est tout dit en français, bah vous buvez beaucoup. On dit, bah non, moi je dis, bah oui, vous le cachez avec les apéros. Mais aussi, en France, je crois qu'on on boit pour le plaisir de l'alcool, mais en Irlande, on boit pour le plaisir de l'ivresse.
Donc oui, avant de partir à l'étranger, quelle image est-ce que vous aviez du pays où vous étiez allé, où vous vouliez aller, que ce soit la France, dans votre cas, Connor et Nourama, ou l'Italie par exemple, Julia? Julia?
Oui, alors en fait, c'est plutôt la Nouvelle-Calédonie. En fait, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que juste avant, je vivais à Paris, et de passer d'une grande, grande ville à un pays où... par exemple, on parlait de différences culturelles. En Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de gens qui se promènent pieds nus, en fait. Alors que quand tu vois à Paris la différence, tu peux pas marcher pieds nus à Paris. Clairement, c'est pas possible. Et t'arrives en Nouvelle-Calédonie, c'est impressionnant. Les cultures, au niveau du langage aussi, il y avait des tics de langage qui étaient impressionnants. On dit, par exemple, j'ai plus l'accent, en fait. Du coup, ça va être très ridicule. Mais c'était longin. Et ça voulait, je peux pas dire la signification, mais c'était vachement, on n'arrêtait pas de répéter longin, 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 tout le temps. Et c'était, et Seb pour dire c'est bon, pour dire ok. Et c'était juste très, très intéressant de voir toutes ces différences-là.
D'accord. Et vous, Nourama?
En fait, on voit que la France, c'est vraiment typiquement la mode, tellement métropolitain. Mais quand je suis venue en France, surtout à Brest, on voit que la mer, le bon paysage. Je trouve que, ok, nouveau à l'aventure, quoi.
C'est vrai que si on a l'image de Paris et qu'on arrive à Brest, on est un peu dépaysé quand même.
Oui.
Est-ce que vous trouvez que c'est important de s'intégrer et d'adopter la culture lorsqu'on arrive dans un pays étranger, au-delà de la langue, bien sûr?
Oui, je suis d'accord. Il faut s'intégrer absolument, pour moi, parce que sinon, on ne peut pas vivre comme les habitants et on ne comprend pas les habitants. Oui, il faut absolument apprendre la langue, mais si on ne comprend pas les cultures, l'histoire, les habitudes de vos voisins, on ne peut pas se muser bien avec ses voisins, on ne peut pas comprendre vos voisins. Donc, pour moi, c'est super important, oui.
Qu'est-ce que tu penses, Julien?
Moi, je pense que oui, je pense la même chose, mais aussi qu'il faudrait garder un petit peu de sa culture d'origine aussi, pour histoire de partager, en fait. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de partager et après aussi de s'intégrer. Mais c'est comme ça qu'on s'intègre, pour moi.
Et comment on arrive, du coup, à garder sa propre culture quand on est confronté à une autre culture dans un autre pays? Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de garder sa propre culture, ou est-ce que ça peut passer aussi par la musique ou apprendre la langue, sa propre langue, etc.?
Pour moi, ça dépend de quel point les cultures sont différentes. Du coup, par exemple, si un Irlandais déménage en Chine, par exemple, les cultures sont super différentes. Du coup, il n'y a pas trop de similarité. Du coup, c'est pour ça que ça peut être super difficile. Mais il faut essayer quand même. Il faut essayer quand même.
Merci, Connor. Comment ça se passe pour toi, Nourama? Parce qu'en Indonésie, entre l'Indonésie et la France, j'imagine que c'est très différent au niveau culturel. Comment tu arrives à t'adapter à la culture française tout en gardant ta propre culture?
Oui, certainement, j'ai toujours posé des questions. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que ça se dit ou pas? Parce que des fois, je trouve que, ok, en français, on ne dit pas ça. C'est plutôt comme ça. Oui.
D'ailleurs, à ce sujet, pour certaines personnes, la limite de l'intégration culturelle, c'est l'appropriation culturelle. Est-ce que vous connaissez ce concept de façon générale? Alors, l'appropriation culturelle, ce serait par exemple, d'après les avocats du concept, ce serait par exemple si un Européen va au Japon et se met à porter un kimono tous les jours, par exemple, ou quelqu'un qui se déguiserait en Indien d'Amérique pour aller à un festival ou quelque chose. Ça pourrait être perçu comme offensif d'un point de vue culturel. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept, donc? Julia, pardon.
On parlait de ça, justement. Connor disait ça aussi. Il faut quand même s'intégrer dans le pays. Donc, ça passe notamment par les vêtements, la plupart du temps. Donc, encore une fois, je suis allée pendant 2 jours au Japon et j'ai porté des kimonos. Parce que pour moi, c'était vraiment pour m'intégrer, mais c'était pas pour m'approprier la culture du tout. C'était vraiment pour m'intégrer. Et il y a, par exemple, des choses qui sont très offensives, comme un festival, je crois, aux États-Unis. Je suis pas sûre que ce soit aux États-Unis, mais où on se met de la peinture noire sur le visage. et qu'on se colore la bouche en rouge. Mais ça, c'est vraiment très offensif.
C'est moins bien, effectivement.
Voilà, clairement. Mais porter un kimono au Japon, pour moi, c'est autre chose. Porter un kimono en se faisant passer pour un Japonais en France ou dans un pays européen, c'est autre chose pour moi. Mais
est-ce que, par exemple, Nourama, dans ton cas, si tu vois quelqu'un qui adore l'Indonésie et qui porte un costume traditionnel mais qui n'est pas indonésien, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu trouves que c'est de l'appropriation culturelle?
Oui, on trouve que on apprécie beaucoup parce que c'est, en fait, on ne sait pas trop. Par exemple, ce que je mets aujourd'hui, c'est batik, c'est la typiquement indonésienne. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui porte batik, ça nous intéresse aussi. Ça, oh, ok, ouais, parce que déjà dans l'UNESCO, on demande pour l'appréciation de la culture internationale pour le batik et d'autres vêtements indonésiens.
Donc c'est plutôt une démonstration que la personne est vraiment intéressée par la culture.
Oui, c'est ça.
D'accord. Quels sont les stéréotypes les plus répandus sur chacun de vos pays? Qu'est-ce qu'on dit? Bon, par rapport à la France, ça va être facile. Julia, qu'est-ce que tu penses que sont les stéréotypes de la France?
C'est encore très ancré. Je voyais un présentateur de télévision aux États-Unis qui portait un béret en noir et blanc, qui parlait français avec une baguette sur une table de bistrot. Oui, c'est encore là-dessus, c'est impressionnant. Mais l'histoire du bistrot, ok, je veux bien. Mais les baguettes, pas tout le monde aime ça. J'adore ça, ok, mais pas tout le monde. C'est pas possible.
Par rapport à l'Irlande, est-ce qu'il y a des stéréotypes qui...
Il y en a beaucoup. Comme par exemple les roux, comme moi par exemple. Ceux qui aiment boire, comme moi par exemple. Ceux qui aiment prions. Comme moi, par exemple. pour moi aussi, j'ai demandé, quand je suis arrivé en France, j'ai demandé à des Français, qu'est-ce que vous pensez d'Irlande et des Irlandais? Et ils ont dit qu'ils sont accueillants aussi. Et ce qui m'énerve, c'est quand on dit les léprechauns. En fait, c'est rigolo parce que dans l'un de mes premiers cours, avant Noël, je faisais un quiz sur l'Irlande et la France, les différences et les similarités. Et j'ai demandé à mes étudiants, c'est de nos jours, il reste combien de léprechauns en Irlande? Et juste pour vérifier, il n'existe pas. Et personne n'a dit zéro. Donc ça m'a rendu triste, mais bon.
Et pour toi, Nourama, est-ce qu'il y a des stéréotypes en France sur l'Indonésie?
Oui, il y a plein. Parce que quand on se connaît, par exemple, vous venez d'où? Je suis indonésienne. Oui, vous connaissez indonésienne? Non, c'est sur la carte. D'accord, c'est sur la carte. Ok, vous connaissez Bali? Oui, Bali, c'est une des îles en Indonésie. Donc, je pense que... Ah, ok, c'est Malaisie. Non, Malaisie, c'est au-dessus de l'Indonésie. Donc,
ah, oui,
oui. Il y a du plus. Vous venez de l'Asie, oui. Je pense que vous parlez tous la même langue. Non, pas du tout. On parle pas chinoise, on parle pas japonais. Donc,
c'est vrai que ça m'arrive aussi quand je dis que je viens du Chili. Les gens, ils ont tendance à me dire, ah, j'ai un ami qui habite en Venezuela. Il s'appelle Carlos. Peut-être que tu le connais. Écoutez, en fait, entre le Venezuela ou Chili, c'est aussi loin que la Russie et la France. Alors, votre pote Carlos, il y a des grandes chances que je le connaisse pas. En tout cas, merci Connor, Nourama et Julia pour cette interview. Vous écoutez toujours Radio Calliope sur le 101.1. Nous faisons tout de suite une pause musicale avec Manarino et le titre Me sembria cato.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me so
Imbriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Ah!
Vous êtes toujours sur Radio Calliope, l'émission 100% langue et en langue, en direct du Centre Calliope à la Fac des Lettres. Philomena Tino et ses étudiants d'italien en L2 ont travaillé sur les stéréotypes. Ils se sont interrogés sur comment les Italiens sont vus par les Français, et ils ont préparé quelques questions qu'Elena Perello a posées directement à des enseignants italiens, qui ont répondu avec beaucoup d'ironie.
Come fate a mangiare tanto senza ingrassare?
Comment vous faites pour manger autant sans grossir?
Mangiamo sano.
Non è vero che non ingrassiamo, però diciamo che non ci importa e continuiamo a mangiare.
Alessandro dit qu'il mange sain, mais Lorenza dit que c'est pas vrai qu'on grossit pas, c'est juste qu'il s'en fiche et qu'il continue à manger.
Come fate ad avere una cucina così buona?
Comment vous faites pour avoir une cuisine aussi bonne?
Beh, secondo me la chiave della cucina italiana è la semplicità e quindi comunque non mescolare troppi ingredienti insieme e quindi più una cucina semplice e i prodotti sono quasi sempre locali, quindi cresciuti qui nelle nostre terre.
Pour Laura, la clé du succès de la cuisine italienne est la simplicité et le fait de ne pas mélanger trop d'ingrédients dans un même plat. De plus, on cuisine souvent avec des produits locaux.
La cucina buona serve a consolarsi delle grandi tragedie del popolo italiano.
Per Francesco, la buona cucina italiana ha un effetto consolatoire par rapport a tutte le tragedie nazionali. C'est vrai qu'avec un buon plat de lasagne della mamma, tutte le petite e grandi tragedie della vita disparaissent.
Ma perché Berlusconi?
Pourquoi Berlusconi?
Perché Berlusconi? Me lo chiedo anche io, perché Berlusconi non l'ho capito ancora, onestamente.
Moi aussi je me demande la même chose. Honnêtement, je n'ai toujours pas compris, nous dit Lorenza.
Ce lo stiamo chiedendo da anni.
On se pose la même question depuis des années, répond Cristiano.
Perché imbrogliate nello sport?
Pourquoi vous trichez au sport?
Perché noi imbrogliamo in tutti gli ambiti della vita.
À vrai dire, nous sommes des tricheurs nés dans tous les domaines, pas que dans le sport, nous révèle Francesco.
Diciamo che imbrogliamo di più negli sport dove ci sono tanti soldi in ballo e quindi il problema non è tanto imbrogliare quanto riuscire a vincere i soldi.
Lorenza dit que les Italiens trichent dans le sport parce qu'il y a toujours beaucoup d'argent en jeu.
Bah, basta dire Zinedine Zidane.
Alessandro dit, il suffit de nommer Zinedine Zidane. Franchement, je ne vois pas du tout de quoi il parle.
Perché non sapete guidare?
Pourquoi vous savez pas conduire?
È perché ci lasciamo prendere dalle emozioni.
Giorgia explique que c'est parce que les Italiens se laissent envahir par les émotions.
Ma chi te l'ha detto che non sappiamo guidare?
Mais qui est-ce qui a dit qu'on ne sait pas conduire? Conteste Elisabetta.
Perché guidare bene, in modo prudente, è molto pericoloso e noioso soprattutto.
Toujours avec ironie, Francesco nous explique que conduire avec prudence est trop ennuyant.
Perché parlate con le mani?
Pourquoi parlez-vous avec les mains?
Perché così ci esprimiamo meglio.
Usiamo le mani perché siamo un popolo più caloroso e quindi usiamo molto la gestualità.
Giorgia e Alessandro expliquent que c'est parce que les Italiens sont un peuple chaleureux qui aime utiliser la gestualité pour mieux s'exprimer.
Perché altrimenti non sapremmo dove metterle.
Alors qu'Elisabetta trouve ça nécessaire parce qu'autrement, on ne saurait pas où mettre les mains.
Perché siete sempre così eleganti?
Pourquoi êtes-vous toujours élégant?
Beh, sicuramente l'Italia è la capitale della moda, senza nulla togliere alla Francia, però è inevitabile per noi seguire comunque, ecco, la moda e l'eleganza e lo stile.
Sans dévaloriser la France, Laura nous rappelle que comme l'Italie est la capitale de la mode, pour les Italiens, c'est normal de suivre le style et l'élégance.
Perché l'Italia è la patria della moda e quindi noi siamo eleganti anche per andare al supermercato. Ci trucchiamo e ci vestiamo sempre bene.
Selon Lorenza, c'est pour les mêmes raisons que les Italiens sont toujours élégants, même pour aller au supermarché. Les Italiens se sont prêtés au jeu, maintenant c'est à vous de vous interroger. Voici quelques questions que eux, ils ont posées aux Français sur leur propre stéréotype.
Perché non incartate le baguette?
Pourquoi vous mettez pas d'emballage sur les baguettes?
Perché siete così snob?
Pourquoi êtes-vous si snob?
E perché i vostri vestiti sono tutti a righe con i pizzi?
Pourquoi vous portez toujours des vêtements à rayures?
Perché quando arrivate in Italia non volete parlare italiano o perlomeno inglese?
Pourquoi quand vous arrivez en Italie, vous ne voulez pas parler en italien ou au moins en anglais?
Perché date testate invece di giocare a calcio?
Pourquoi vous donnez des coups de tête au lieu de jouer au foot?
Come fate ad essere così magri nonostante il burro e i formaggi che mangiate?
Comment vous faites pour être maigre malgré tout le beurre et le fromage que vous mangez?
Perché non utilizzate la tovaglia quando mangiate?
Pourquoi vous n'utilisez pas de nappe de table lorsque vous mangez?
Perché non avete il bidet?
Pourquoi vous n'avez pas de bidet?
Vous écoutez Radio Calupé sur le 101.1. On est en direct du Centre des Langues. Merci à Filomena Tino, Elena Perello et leurs étudiants pour ce micro-trottoir.
En écoutant les questions posées par les Italiens, je suis sûre que vous vous dites « Mais on n'est pas comme ça en France !» Vous voyez bien que quand on ne connaît pas bien un pays ou une culture, ça entraîne beaucoup d'idées reçues et des stéréotypes. Mais il y a des solutions pour ouvrir son esprit et lutter contre ces stéréotypes. À l'université, on appelle ça les échanges culturels.
Pour nous parler des dispositifs proposés à l'UBO pour favoriser les échanges, nous recevons sur le plateau Christophe Guilherme, en charge de la communication et des partenariats à la direction européenne internationale de l'UBO.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors Christophe, pourquoi vous avez choisi de travailler dans les relations internationales à l'université?
Tout d'abord parce que j'ai moi-même pendant mes études eu la chance de partir à l'étranger. Je suis parti il y a un an à Cardiff, c'était pas le programme Erasmus mais c'était un programme équivalent. Donc ça m'a beaucoup plu. Après pendant ma carrière professionnelle j'ai eu l'occasion de bouger également. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu travailler dans le domaine de l'international à l'UBO, à l'université. Enfin, j'ai eu cette opportunité.
Justement, vous nous parlez des différents programmes. Quels sont les programmes proposés à l'université pour favoriser les échanges culturels?
Alors, il y a deux possibilités de partir pendant son cursus. C'est en mobilité de stage et en mobilité d'études. Et après, on propose différents programmes. Bien sûr, il y a le programme Erasmus+. Donc d'ailleurs, je précise, cette année, ça fait 30 ans qu'il existe. Donc d'ailleurs, il y a plusieurs manifestations en Europe. Et à l'UBO, on va organiser un événement qui n'est pas encore défini, mais pour les 30 ans d'Erasmus+, pour expliquer un peu aux gens ce qu'est Erasmus, en fait, parce que tout le monde ne sait pas. Il y a aussi le programme BCI avec le Canada. Je suis pas ce que c'est BCI, c'est des termes à rallonge, mais voilà, c'est un terme que de plus en plus de gens connaissent. En fait, ça permet à des Canadiens de venir étudier en Europe et à des Français, des Européens d'étudier au Canada. Et ensuite aussi, l'UBO a plusieurs conventions et plusieurs accords en dehors d'Erasmus et en dehors du programme BCI, avec des universités à l'étranger. Voilà, donc que ce soit aux États-Unis, en Chine ou dans d'autres pays du monde.
C'est pas mal de choses donc. Est-ce qu'il y a plus d'étudiants qui veulent partir à l'étranger ou plutôt d'étrangers, des étudiants étrangers qui veulent venir en France en termes de nombre?
Je peux pas parler exactement pour la France, mais en tout cas à l'UBO, on a plus d'étudiants qui partent en échange que d'étudiants qui viennent. Après, il y a beaucoup d'étudiants étrangers à l'UBO, ils sont 1700 en tout. Mais après, il y a des étudiants étrangers qui sont inscrits à l'UBO comme des étudiants français. On a à peu près 100 étudiants étrangers Erasmus à l'UBO. Et il y en a 1000 qui partent en échange tous les ans. Des étudiants français qui partent à l'étranger. Donc on en a plus qui partent.
D'accord, je vois. Et les étudiants étrangers, du coup, à l'UBO, ils viennent d'où en majorité
On a des étudiants étrangers inscrits à l'UBO. Il y a beaucoup d'étudiants en Afrique du Nord, du Maroc, par exemple. Et après, en Europe, il y a beaucoup d'étudiants chinois également. Et en Europe, Espagne, quelques étudiants anglais et des Italiens. Enfin, voilà, c'est assez varié, en fait. Ouais.
Et pour ceux qui partent, est-ce qu'il y a des destinations plus populaires que d'autres?
Oui, alors il y a beaucoup de destinations en Europe. J'ai là la liste des destinations. Dans le monde entier, c'est le Canada, la première destination. C'est grâce au programme dont je parlais tout à l'heure, la première destination. Ensuite, il y a la Chine. Ensuite, le Maroc. Là, c'est plus des étudiants qui partent en stage. Les États-Unis et l'Australie. Et en Europe, la première destination, c'est l'Angleterre. Ensuite vient l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne et la Finlande. Voilà, un peu le classement, le top 5 hors Europe et Europe.
Une fois que les étudiants choisissent leur destination, comment est-ce qu'ils préparent leur dossier ou leur départ?
Alors, une fois qu'ils ont choisi leur destination, ils ont de l'aide à l'UBO déjà avec leur enseignant. Donc, qui va les aider à choisir leur cours dans l'établissement partenaire. C'est-à-dire, si on étudie les mathématiques à l'UBO, on va pas se retrouver à faire du sport ou autre chose, ou du français, ou voilà. Il faut qu'il y ait une équivalence quand même dans ce qu'on étudie. Donc, c'est pour ça qu'il y a les contrats Erasmus. Ensuite, il y a une aide, donc ça, c'est l'aide pédagogique. Il y a aussi une aide administrative pour tout ce qui est papier et ces choses-là. Donc là, c'est le service des relations internationales. Donc, mes deux collègues, Christelle et Chantal qui aident les étudiants là-dessus. Et il y a aussi une aide financière, donc notre service aussi, le service des relations internationales à la présidence, après dans chaque composante, on octroie des bourses en fait, des bourses pour aider à partir à l'étranger. Donc c'est des financements qui viennent de l'Europe, de la région, voilà, il y a plusieurs financements.
Je vois, c'est intéressant. C'est vrai qu'en arrivant dans un nouveau pays, l'adaptation culturelle peut être difficile. Est-ce que l'université prévoit un accompagnement des étudiants pendant leur séjour?
Oui, alors on a mis en place, dès le début déjà avec le Centre de mobilité internationale, un accueil en fait pour les étudiants qui viennent ici en France. Donc ils peuvent être accueillis déjà à la gare ou à l'aéroport par des étudiants français, et ensuite après pour trouver les différents services, savoir où ils vont étudier, trouver leur faculté, ils peuvent être accompagnés également. Donc c'est une chose qui est mise en place. Après, il y a également des cours de langue, des choses comme ça. Voilà, il y a des associations étudiantes aussi qui permettent l'intégration des étudiants à l'université.
D'accord, je vois. Et pour les étudiants français qui reviennent de l'étranger, enfin d'un séjour Erasmus par exemple, est-ce qu'il y a des procédés en place pour ça?
Pour ceux qui reviennent, pas à ma connaissance. Enfin, c'est pas quelque chose d'officiel, mais en fait dans leur cursus, ceux qui partent à l'étranger dans le cadre d'un accord, ils ont pas de retard par rapport à leurs petits camarades qui sont restés ici, quoi. Donc ils réintègrent leur cursus. Ils sont partis en licence 2, ils reviennent en licence 3 par exemple, ils réintègrent le cursus sans aucun problème, même avec beaucoup d'atouts, puisque voilà, ils ont découvert une nouvelle culture, ils ont appris une nouvelle langue, ou ils ont amélioré une langue, et puis ils ont appris des choses qu'ils auraient également appris ici, enfin au niveau pédagogique.
Après, je sais que l'université aussi, surtout le pôle langue, propose cours de conversation avec des tuteurs étrangers. Donc pour ceux qui reviennent, ça peut leur permettre justement de rencontrer des gens du pays qu'ils ont visité et de continuer aussi à pratiquer la langue.
Tout à fait.
À votre avis, Christophe, quels sont les bénéfices d'un séjour à l'étranger pour les étudiants mais aussi pour les professionnels ?
Il y a plusieurs bénéfices. Découvrir la culture, on en a déjà parlé tout à l'heure avec les différentes expériences des étudiants. Sur le plan professionnel également, enfin, c'est démontré qu'on a beaucoup plus de chances de trouver un emploi en ayant eu une expérience à l'étranger qu'en étant resté dans sa ville ou dans son pays. Et puis linguistique, bien sûr. Au plan linguistique et au plan personnel, je pense que ça apporte beaucoup de partir à l'étranger, d'avoir une expérience comme ça.
En effet. Est-ce que vous-même, vous avez déjà participé à un échange professionnel ?
Professionnel, c'est-à-dire
dans votre poste à la direction européenne internationale, est-ce que vous faites des déplacements ou
J'ai eu des déplacements pour des formations à l'étranger, mais je suis pas celui qui, on va dire, qui va bouger le plus dans l'équipe. D'accord. Certains collègues ont bougé un peu plus que moi, notamment pour des délégations à l'étranger ou des choses comme ça. Donc aller rencontrer des partenaires à l'étranger. Pour justement mettre en place des accords pour les étudiants.
En mars dernier, il y a eu lieu la Staff Week à l'UBO. Est-ce que vous pouvez nous parler qu'est-ce qu'une Staff Week ?
Alors, une Staff Week, ça fait un terme un peu barbare comme ça. Il n'y a pas vraiment d'équivalent de mot en français. En fait, c'est formation et des échanges de bonnes pratiques pour les professionnels des universités, donc soit les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs, donc qui vont pendant quelques jours ou jusqu'à une semaine aller dans une autre université pour discuter, échanger sur un sujet. Donc le thème est défini à l'avance. Il y a plusieurs staff weeks, ça se passe surtout en Europe. Ça peut être les relations internationales, le programme Erasmus+, ça peut être complètement différent, les ressources humaines. Donc il y a beaucoup de thèmes comme ça. Et à l'UBO, on en a organisé une en 2013, parce que ça se fait dans beaucoup d'universités, et sur le thème des langues.
Voilà. Et cette année, le thème, c'était les langues aussi, il me semble.
Je parlais de celle-ci, oui. En fait.
Ah,
voilà,
d'accord.
C'est celle de cette année, en fait, sur les langues. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus sur quel type de sujet échangeaient exactement les professionnels ? Quel type de professionnels aussi il y avait pendant ce Staff Week ?
On a eu 14 personnes, en fait, donc d'universités européennes, mais principalement. Donc, ils sont venus. Alors, c'était des enseignants-chercheurs, il y avait des doctorants, du personnel administratif. Ils étaient travaillés tous dans le domaine des langues, donc des enseignants en langue, des doctorants en langue, en linguistique, ou du personnel qui travaillait dans des services de traduction ou autres. Donc il y avait un programme assez chargé, donc avec des ateliers pour leur montrer en fait ce qu'on fait ici au niveau des langues à l'UBO. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent à l'UBO au niveau des langues, donc c'était le but de leur montrer ce qui existe. Et ils nous ont tous aussi montré, enfin il y a eu un échange, ce qu'ils faisaient chez eux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des échanges de bonnes pratiques. Il y avait aussi on a organisé des conférences, des ateliers. Donc il y a eu une conférence sur la créativité, pas que en langue, mais en général, dans les cours. Il y a eu un atelier sur les jeux pédagogiques, qui était très intéressant. Il y a une intervenante qui est venue également présenter le théâtre, le théâtre en cours de langue, comment utiliser le théâtre pour améliorer l'anglais des étudiants. Par exemple, ça se passe ici à l'ESIAB, en fait, avec des étudiants qui ont des soucis en anglais. Ils les font faire des petites scénettes en anglais pour améliorer leur niveau d'anglais.
Donc vraiment des échanges multilingues et pluridisciplinaires aussi, avec le théâtre, les jeux, etc.
Voilà, ouais, c'était...
Il me semble que cette semaine s'appelait Creative Languages.
C'est ça.
Donc créativité dans l'apprentissage et l'enseignement des langues.
Merci Christophe de nous avoir rejoint aujourd'hui sur Radio Calliope.
Merci à vous.
Vous êtes toujours en direct du Centre des langues sur le 101.1. On a eu l'occasion de rencontrer les enseignants qui participaient à la Staff Week sur la créativité dans les langues en mars dernier à l'UBO. On leur a posé une question.
Comment les langues peuvent-elles nous aider à dépasser les préjugés? Voici leur réponse.
Și în primul rând am învățat să nu judec înainte de a cunoaște oamenii, de a cunoaște motivațiile lor și de a cunoaște ceea ce îi face să acționeze într-un anumit fel. Deci limbile străine m-au ajutat să trec peste intoleranță, să învăț să înțeleg întâi și apoi să judec, ceea ce este foarte important, pentru că în viață judecăm lucrurile în funcție de ceea ce înțelegem și considerăm a fi greșit ceea ce nu înțelegem.
L'apprentissage des langues m'a aidé à être moins dans les jugements, à être plus tolérante et m'a appris à essayer de comprendre d'abord et ensuite juger une personne, parce que la plupart du temps, quand on rencontre quelqu'un d'une autre nationalité et culture, la personne n'est pas forcément bonne ou mauvaise. Mais quand leur éducation est différente de la mienne, on peut vite tomber dans le jugement. Il n'y a pas de vérité générale dans le monde et on ne peut pas assurer définitivement qui a tort ou a raison.
Bazuyis, à Gandara, j'ai cours de Dremen Dreist à Jean-Jou, après la Côte Bion, préjugé. À Gandrez ou Yévi dans Yézou, à Négon Prenerkit, puis à Berankar, Chiloumat, dans Dut, à Tolerevez, à Pézalarn.
Bisogna considérer que il rapporto tra lingua e cultura è imprescindibile. E quindi, conoscendo una lingua, si conosce anche meglio la cultura di chi parla quella lingua. E quindi in questo modo si possono superare i pregiudizi e magari trovare tanti punti in comune che prima non si immaginavano.
Le rapport entre une langue et sa culture est quelque chose dont il faut absolument tenir compte. C'est en fait à travers une langue qu'on connaît mieux la culture de la personne qui parle cette langue. Et c'est ça qui peut nous aider à dépasser les préjugés et trouver des points en commun.
Ik denk dat een taal nooit in een vacuüm gesproken wordt. Het is altijd deel van een cultuur en door een taal te leren, leer je ook meer over de cultuur van mensen en leer je mensen beter begrijpen en dat verbindt ons allemaal.
Je pense qu'une langue n'est jamais parlée dans le vent, donc je pense qu'en étudiant une langue, on en prend plus sur une culture, et en prenant plus sur une culture, on arrive à mieux se connaître, et on dépasse les préjugés pour devenir une meilleure communauté, une communauté mondiale.
Ik denk dat talen u mensen op een andere manier laten kennen. Bijvoorbeeld toen ik door Zuid-Amerika aan het reizen was. Het feit dat ik Spaans sprak opende eigenlijk verschillende deuren. Zo ben ik bij verschillende mensen gewoon thuis kunnen gaan eten. En op die manier leer je ook hun cultuur kennen, hun persoonlijk leven en dergelijke. Dus op die manier zorg je dat je geen vooroordelen meer hebt.
Je pense que connaître des langues et de connaître les gens d'une autre façon, de meilleure façon et plus intense. Par exemple, j'ai voyagé en Amérique du Sud et vu que je parlais espagnol, je connaissais les gens d'une manière très différente. J'étais invité chez eux, je pouvais dîner avec eux et comme ça, je connaissais leur vie et j'ai appris leur manière de vivre. À mon avis, cela aide beaucoup à lutter contre les préjugés.
Man sagt, dass nicht wir die Sprache sprechen, sondern die Sprache uns spricht. Deshalb ist es wichtig, dass wir andere Sprachen lernen. So können wir die Menschen aus anderen Kulturen besser verstehen.
Ce n'est pas nous qui parlons les langues, mais c'est les langues qui nous parlent. Donc c'est important d'apprendre d'autres langues, de découvrir des nouvelles cultures et de comprendre les gens qui vivent ces cultures.
Vous écoutez Radio Calliope, votre émission 100% langue sur Radio U. Nous sommes en direct du Centre des langues Calliope à la Fac de Lettres.
Avant la recette de cuisine, on va faire une petite pause musicale avec Marcelinho da Lua et le titre Tranquilo.
Ragamuffin is the business.
I love King Selassie, Marcelin da Lua original style. Galang when it comes to rock a party, the power and the strength from the Almighty. Follow me like Dylan McCaffin, I love King Selassie, Marcelin da Lua original style. Galang when it comes to rock a party, the power and the strength from the Almighty.
Rastafari,
Selassie é o primeiro rei dos reis, senhor dos senhores, Leão conquistador da tribo de Judá. Mr. Black, susto cheque, cadê meu Tomek? Aperta o back, ah moleque, Marcelinho da Lua e Bi Ribeiro, aperta o rec. Iggy check, tá tranquilo. Now, kill this.
Toujours sur Radio Calliope, sur le 101.1, en direct du Centre des langues Calliope. Il est l'heure du moment tant attendu pour les gourmands, l'heure de la recette. Pour cette émission, Elena Perello est allée à Treviso en Italie pour rencontrer Fabio qui nous apprend à faire un tiramisu.
De tanti anni ormai che son lontan de ti, vece a Trieste mia, son resta solo e...
Bonjour, aujourd'hui nous apprenons à faire le dessert italien le plus célèbre, le tiramisu, qui littéralement veut dire « tire-moi vers le haut » dans le sens « remonte-moi le moral ». Pour cela, je suis allée à la rencontre de Fabio, un ami italien originaire de Trévise, une ville très proche de Venise dans les Veneti. C'est bien dans cette région, dans le nord de l'Italie, que le tiramisu est né.
Buongiorno. Allora, faccio un tiramisù. Per preparare un tiramisù per 8 persone abbiamo bisogno di 300 g di savoiardi.
Quindi per 8 persone 300 g di boudoir.
4 uova.
4 œufs.
500 g di mascarpone.
500 g di mascarpone.
100 g di zucchero.
100 g di sucre.
Del caffè di moka.
Du café fait moka.
E del cacao in polvere.
E du cacao en poudre.
E in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana.
Allora, per prima cosa, rompiamo le uova e separiamo gli albumi dai cuorli.
Donc on rompt les œufs et on sépare le blanc du jaune et on les met dans deux salades différentes.
Ok, una volta fatto, prendiamo i tuorli e aggiungiamo metà dello zucchero.
Donc on prend le jaune et on met le sucre, une cinquantaine de grammes.
Sì, e mescoliamo per ottenere una crema.
E on mélange tout et on fait une crème.
Una volta ottenuta la crema, aggiungiamo il mascarpone.
E après on rajoute le mascarpone.
E continuiamo a mescolare.
E on mélange tout encore.
Allora, il tiramisù è un dolce tipico di Treviso. Città del Veneto, nell'Italia del Nord.
C'è un dessert tipico dell'Italia du Nord, di Treviso, che è près de Venise.
Ok, Una volta terminata la crema, prendiamo gli albumi e mettiamo lo zucchero che ci rimane.
Donc ensuite on prend le blanc des œufs qui nous reste et on met les 100 g de sucre qu'on avait.
E montiamo a neve.
E on monte a neige. E quando lo mangiate questo dolce?
Bah, ogni occasione è buona.
Donc c'est toujours l'occasion d'un tiramisù.
Mia nonna ha sempre un tiramisù in congelatore.
Donc sa grand-mère a toujours un tiramisù dans les réfrigérateurs.
Allora, una volta montati gli albumi a neve, uniamo le due creme, quella di tuorli e quella di albume, in un'unica terrina.
Donc on met les deux crèmes dans une seule saladier, on fait une crème.
Sì, e le mescoliamo.
E on mélange tout.
Quando abbiamo una bella crema omogenea, sarà la nostra crema per il tiramisù. Una volta terminata la crema, prendiamo il caffè e i savoiardi.
Donc maintenant qu'on a la crème, on prend le café et les boudoirs.
E inzuppiamo i savoiardi nel caffè.
Donc il faut tremper les boudoirs dans le café.
Non troppo, sennò diventano troppo molli.
Pas trop, hein.
E li disponiamo nella nostra teglia.
Donc on prend une barquette o un moule à cake, on fait une couche.
Esatto, facciamo uno strato di savoiardi inzuppati di caffè. Una volta terminato, prendiamo la crema e la disponiamo sopra i savoiardi, in modo da creare un altro strato.
Donc on prend notre crème et on fait une couche sulle boudoirs.
Se ci avanzano ancora dei biscotti dalla crema, dipende dalla dimensione della teglia, possiamo fare un secondo strato.
On peut faire plusieurs couches selon la quantité de boudoirs et de crème qui nous reste.
Ok, una volta terminato l'ultimo strato, prendiamo il cacao in polvere e lo disponiamo sopra la crema, in modo da coprirla totalmente.
Ensuite on recouvre tout avec le cacao en poudre.
Esatto. Una volta terminato, il nostro tiramisù è pronto. Lo facciamo riposare in frigorifero per qualche ora e poi sarà pronto per mangiarlo.
Donc on le met au frigo pour quelques heures. Quante ore più o meno?
Diciamo più o meno 3-4 ore.
3-4 ore minimo.
Esatto. E poi possiamo mangiarcelo. Quindi buon appetito.
Grazie Fabio.
Ciao, alla prossima.
La vita e poi sarà quel che sarà. Solo davanti a un fiasco di vino.
Vous êtes toujours sur Radio U 101.1 et vous écoutez Radio Calliope, l'émission 100% langue. Merci à Elena et Fabio de nous avoir mis en appétit. Kathleen est avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir tous les événements en langue étrangère à Brest et aux alentours. C'est la chronique à ne pas manquer. L'actualité des langues, c'est maintenant à toi, Kathleen.
Bonjour à tous et à toutes, voici l'actualité des langues du mois de mai, pardon. Commençons par les cinémas.
Excusez-nous.
Pardon. Avec l'incontournable festival du cinéma espagnol et latino-américain qui a lieu au studio jusqu'au 9 mai. Je vous rappelle que tous les films sont en VO sous-titré. Si vous avez envie d'échanger dans une langue de votre choix, dans un cadre convivial autour d'un apéro, vous ne pouvez pas rater l'apéro des langues à la maison pour tous de l'Arte-Loire le 4 mai à partir de 18h45. Et n'oubliez pas d'apporter une petite spécialité à déguster. Ça vous dit de faire un voyage entre Séville et Cuba avec une escale au Mexique? Si la réponse est oui, je vous conseille le spectacle Racine Latine de Juanito Fuentes Núñez, guitariste et chanteur accompagné de 4 musiciens et d'une danseuse de flamenco. Il aura lieu à Guivava dans la salle L'Alizée de 19 mai à 21h. Aux fans de culture orientale, je signale le Japanese New Music Festival au Cabaret Vauban le 31 mai à 20h30. Il s'agit d'une soirée où 3 musiciens japonais mélangeront toutes sortes de musiques, du rock au jazz à la musique classique ou bien expérimentale.
Pour ce mois, c'est tout. Au nom de toute l'équipe de l'actualité des langues, je vous remercie tous ceux qui nous ont suivis et qui, grâce à cet agenda, ont pu découvrir des événements intéressants. Merci également à Radio Calliope d'avoir accueilli cette rubrique tout au long de l'année. Thanks everyone and see you later.
Merci Caitlin. Nous arrivons à la fin de notre cinquième et dernière émission de Radio Calliope. Cette année, on vous a proposé un rendez-vous mensuel pour découvrir différentes langues et cultures. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ce projet, qui allie l'apprentissage des langues et la création radiophonique. Un grand merci à la Faculté des Lettres Victor Ségalin, la Maison des Langues, le Pôle Langue de l'UBO, les lycéens du lycée de Liroise, les lycéens du lycée d'application de Recife au Brésil, tous mes collègues lecteurs, les enseignants des langues, les étudiants et enseignants de l'ENIB. Et merci également à tous nos bénévoles étudiants, à Morgane et Vincent de Radio U et à tous nos auditeurs du pays de Brest et ailleurs.
Pour accéder au contenu de notre émission, vous pouvez nous retrouver sur le Facebook et le Mixcloud de Radio Calliope, où vous trouverez également du contenu exclusif fait par les étudiants d'anglais de Gaël Lecor.
C'est la fin de cette cinquième et dernière émission de Radio Calliope en direct du Centre des Langues sur le 101.1. On se quitte avec la chanson du générique de Radio Calliope que pour une fois on écoutera en entier. Torre de Babel du groupe Los Tres. Buenos días a todos.
Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano.
Se fue con otros cigarros a ver el río correr.
¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.